C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Salut Adjane, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va super bien, j'ai passé un très bon week-end. Donc je reviens avec la pêche pour une nouvelle semaine.
Est-ce qu'on dit ou pas que tu as passé le week-end au bord d'une piscine à Avignon ?
Ouais, exactement, j'ai passé très belle ville. D'ailleurs, amis avignonnais, si vous nous écoutez, vous avez une très jolie ville. C'est petit, mais c'est très très mignon pour passer le week-end. J'ai adoré.
On s'en fait pas. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé de beau ce week-end dans ta veille social media, mon grand ?
Eh bien moi, je voulais commencer par vous parler des tweets vocaux, les tweets audio qui sont arrivés sur Twitter. Ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Twitter vient de lancer ses tweets vocaux, nouvelle fonctionnalité qui va être utilisable par un nombre limité de personnes pour le moment, comme d'habitude, et ils vont mettre un petit peu ça au test. Ces utilisateurs pourront donc poster des messages vocaux en guise de tweet. On sait que le message vocal, ça revient très fort, hein, notamment chez les plus jeunes. On a marre de taper, c'est long, on fait des fautes, là, pas besoin de se prendre la tête. On appuie sur un bouton, on parle et c'est envoyé comme un message audio. Qui l'eût cru il y a quelques années qu'on reviendrait quand même à tous ces messages audio alors qu'on les écoutait même plus sur nos téléphones. Donc sur Twitter, vous pourrez envoyer des tweets vocaux de 140 secondes. C'est une référence aux 140 caractères d'un tweet écrit à la base, hein, puisque aujourd'hui c'est 280, mais initialement c'était 140. Et puis, bah voilà, ça pose quand même quelques questions au niveau de la modération. Hein. Comme toujours, je viens avec mon petit laus sur la modération. Mais là, on le sait, Twitter lutte déjà difficilement, hein, contre le harcèlement sur sa plateforme. Les messages audio, ça va être encore une autre paire de manches pour arriver à les modérer. Pour l'instant, Twitter n'a pas vraiment fait d'annonce. Il y a CNN qui les a contactés sur le sujet. J'ai vu ça dans un article du Monde. Où Twitter a déclaré qu'il travaillerait à un système de surveillance avant de le déployer sur tous ses utilisateurs. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué, hein, Thibaut, de modérer du contenu audio. Soit c'est des personnes qui doivent l'écouter, et même pour un algorithme, une IA, c'est beaucoup plus dur de reconnaître les mots dans quelque chose d'audio que dans un texte tapé où là c'est que du code.
Ouais, bien sûr. Intéressant cette fonctionnalité. On a hâte. Tu vois, le format 140 secondes, ça laisse déjà de quoi dire des choses. Hein. Est-ce qu'on peut imaginer demain un espèce de format micro-podcast?
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on fera un petit résumé du UPC lundi?
Franchement, pourquoi pas, ça se discute. Moi de mon côté, je voulais parler de Google qui s'en prend à Pinterest, oui, avec Keen. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Google commence déjà à avoir d'un drôle d'œil, hein, la progression de Pinterest. C'est vrai qu'au fil des années, Pinterest s'est imposé comme vraiment un moteur de recherche visuel. Et là-dessus, les récentes annonces de la plateforme aussi au sujet du social commerce n'ont fait qu'accentuer les craintes de Google. Hein. Pourtant, si on rappelle juste les chiffres, hein, Pinterest est quand même très très loin de Google. Ça représente qu'une part vraiment marginale du marché de la recherche, avec 367 millions de monthly active users côté Pinterest, là où Google en compte 2 milliards. Donc c'est vrai que c'est une goutte d'eau à l'échelle de Google. Ceci étant, c'était suffisamment inquiétant pour Google, qui a commencé à chercher depuis maintenant plusieurs temps. Ils ont fait un certain nombre de fonctionnalités. Là, ils arrivent assez fort avec un outil qui s'appelle Keen. C'est leur dernière trouvaille au groupe Google pour faire barrage à Pinterest. Alors, qu'est-ce que ça te permet, Keen ? Je te lis le communiqué officiel. Alors, c'est une application déjà, une application qui permet d'organiser le contenu que vous aimez, de partager votre collection avec d'autres et de trouver de nouveaux contenus en fonction de ce que vous avez enregistré.
Ça ne ressemble pas du tout à Pinterest. Je trouve ça très éloigné.
Ouais, ça ressemble quand même beaucoup à la promesse de Pinterest. Alors, sur Keen, concrètement, tu peux organiser des collections pour toi-même ou aussi pour d'autres, donc les rendre publiques. Tes pins sont donc soit privés, soit publics. Et puis, alors tiens, pins,
ça ne ressemble pas du tout non plus.
Rien à voir. Et puis, Google utilisera aussi ses algorithmes de recherche avancée pour trouver un contenu similaire à ce que vous avez ajouté. Ça ressemble quand même exactement à du Pinterest. Et d'ailleurs, Google n'est pas le premier à s'en prendre à Pinterest. Hein. On a parlé il y a quelques temps sur le Super Daily de Facebook, hein, qui lançait son clone qui s'appelle Hobby, qui est déjà en ligne, qui est disponible. Donc deux applications concurrentes qui viennent sur marcher sur les plates-bandes de Pinterest, King côté Google et puis Hobby du côté de Facebook.
Ouais, quand tu as deux gros géants comme ça qui viennent marcher sur tes plates-bandes, tu es quand même, à mon avis, pas ultra serein du côté de Pinterest, même si pour l'instant, bah, Pinterest a quand même pris un peu d'avance, mais ça va être chaud.
Affaire à suivre.
Moi, je vous ai parlé de modération un petit peu avec Twitter, donc je vais continuer dans ce rythme-là, hein, dans cette lignée, avec la loi Avia contre la haine en ligne. Cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale le 13 mai dernier et devait entrer en application ce 1er juillet. Mais le Conseil constitutionnel a retoqué la partie peut-être la plus importante de la loi, une des mesures phares de cette loi qui était de pouvoir infliger des sanctions pénales aux réseaux sociaux s'ils ne supprimaient pas un contenu haineux en moins de 24 heures. Alors déjà rien que dit comme ça, on se dit ça va être un peu chaud pour des plateformes comme Twitter, comme Facebook, Instagram, d'aller en moins de 24 heures supprimer un contenu haineux. En tout cas, c'est quelque chose que pour le moment, ils n'arrivent pas du tout à faire. Et c'est une partie qui est assez controversée hein, dans le texte qui est porté par la députée hein, Laetitia Avia, puisque même elle dit que c'est le cœur du texte hein, de loi. Donc, c'est vraiment la base. Pour le Conseil constitutionnel, cela va à l'encontre de la liberté d'expression, tout simplement. Ça risque d'amener trop de censure parce qu'on pense que les plateformes vont devoir censurer à tout va pour être sûr de jamais se faire sanctionner. Et puis, le cœur du problème, ça reste notamment celui de juger de qu'est-ce qu'un propos haineux et de est-ce que c'est aux plateformes de décider de si c'est un contenu qui est haineux ou pas haineux. Normalement, ça devrait être à la justice de le faire, d'après le Conseil constitutionnel. Ça ne devrait pas être une entreprise privée de décider ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, c'est déjà ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, hein, puisqu'il y a de la modération qui existe face au contenu haineux pour ces plateformes-là. Mais si vous êtes un individu et que vous êtes censuré par Facebook ou par Twitter, vous pouvez aussi aller porter plainte contre la plateforme pour censure. Vous avez le droit de le faire si vous estimez que vous avez été censuré par erreur. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. C'est toujours aussi délicat, je trouve, ce débat de la modération. On a parlé déjà avec Donald Trump et l'affaire entre Twitter, Facebook, différentes manières de voir tout ça. Là, avec cette loi, on se rend compte qu'en France, en tout cas, pour le moment, on n'a pas envie de donner la responsabilité totale aux plateformes de juger, de modérer complètement des propos qui sont sur leur plateforme.
Ouais, je vois que c'est un sujet qui te tracasse, hein, parce qu'il revient fréquemment. Alors, j'hésite entre deux surnoms pour toi. Soit je t'appelle le Castaner des réseaux sociaux, soit le Maître Eolas des réseaux sociaux. Hein. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est un sujet. Hein.
Pour tout dire, j'aime pas ne pas avoir d'avis tranché sur une question, et j'ai pas d'avis sur cette question. Je me pose vraiment la question de comment faire au mieux pour que ce soit des safe spaces.
Bonne chance avec ça. Voilà, chacun son fardeau. Allez, moi, je vais parler des LinkedIn Stories. Les LinkedIn Stories arrivent, les amis, elles arrivent. Préparez-vous, préparez vos visuels au format 9/16 parce qu'elles sont tout proches. En tout cas, elles arrivent en Australie après le Brésil, les Pays-Bas et les Émirats Unis. Eh bien, les utilisateurs de LinkedIn en Australie peuvent désormais publier des stories sur la plateforme. Ça y est. On en avait déjà parlé, évidemment, hein, dans le Super Daily, de ces stories LinkedIn qui fonctionnent à peu près de la même manière que sur Facebook et Instagram. Hein, donc, évidemment, format 9/16 vertical avec une barre de stories en haut de ton flux principal. Donc, ça va prendre beaucoup de place à l'écran et ça va être très visible. Et c'est forcément très, très alléchant pour les individus et peut-être même les marques hein, qui prennent la parole sur les réseaux sociaux avec à venir aussi pas mal d'autocollants, les fameux stickers et puis d'outils disponibles hein, pour rajouter du micro-engagement dans ces stories. Bref, nous, vous le savez, on appelle de nos voeux très vite que cette fonctionnalité arrive en France et donc elle arrive en Australie. Alors, on aurait pu penser hein, que, étant donné le nombre maintenant d'utilisateurs qui ont désormais accès à l'option stories, on aurait pu penser que LinkedIn allait maintenant lâcher les chiens et diffuser plus largement cette fonctionnalité. Alors, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est donc en Australie. Et puis, allez, on va voir ça débouler en France d'ici peu. Moi, je crois que j'avais fait une hypothèse qui était septembre, je maintiens.
Voilà, je maintiens
septembre, arrivée des stories LinkedIn.
T'aurais pu dire année 2020 pour être un peu plus large, mais...
Ça se rapproche quand même sacrément. Parce que tu prends Brésil, Pays-Bas, Émirats Arabes Unis et Australie, ça commence à faire beaucoup d'utilisateurs en bêta. Hein.
Eh ben, on suit ça à la rentrée. Alors, à la rentrée, préparez-vous un super délit sur notre utilisation des stories LinkedIn.
Exact.
Moi, je vais vous parler de YouTube qui lance Brand Connect. Alors, après Facebook qui avait lancé Brand Collab pour mettre en lien les marques et les créateurs sur sa plateforme, c'est au tour de YouTube de lancer le même genre de projet. En 2017, Google avait acquis la plateforme d'influence marketing Famebit. Cette plateforme va connaître quelques changements et va maintenant s'appeler YouTube Brand Connect, hein, puisque YouTube fait partie du groupe Google, bien sûr. Donc, sur Famebit, on trouvait un programme en self-service accessible à tout le monde qui va maintenant fermer pour laisser place qu'à une partie spécifique de la plateforme. Cette partie spécifique, c'est un programme de différents services. C'est encadré par une équipe d'experts, d'après Google, chargée de mettre en relation les créateurs et les marques et de suivre surtout le projet jusqu'à la livraison. Donc,
vraiment en mode agence interne.
C'est
quoi,
ça, ouais. Exactement. Tu as des experts qui vont les mettre en lien et puis qui après vont suivre le boulot du créateur pour arriver jusqu'à la livraison pour la marque. Donc, un programme de A à Z. En gros, YouTube garde ce qui est le plus rentable économiquement hein, dans la plateforme Famebit. C'est là qu'il y a le plus d'oseille. Donc, c'est là où ils vont normal. Pour l'instant, il faut être un créateur aux États-Unis, Thibaut, donc pas de chance pour toi, et avoir une communauté de plus de 25 000 abonnés pour pouvoir s'inscrire sur YouTube Brand Connect à partir de YouTube Studio. C'est dommage parce que tu avais les 25 000 abonnés sur YouTube, toi, je sais, très largement avec ta fille et votre podcast. Mais là,
avec ma chaîne d'unboxing.
Bah, il ne te reste plus qu'à déménager à New York. Je crois que tu te posais la question. C'est le moment de sauter le pas. Donc, YouTube va mettre ensuite pas mal d'outils apparemment et de fonctionnalités. J'ai hâte d'aller voir un peu tout ça pour gérer les campagnes d'influence avec différents KPI. Donc, ça me paraît ultra cool à suivre. On aura l'occasion, à mon avis, hein, de revenir un peu là-dessus et d'explorer cet outil quand il sortira vraiment en France.
Ouais, c'est toujours intriguant de voir, notamment côté YouTube et Google, la place qu'ils laissent aux agences. Parce que c'est vrai que la tentation est forte hein, côté Google et côté Facebook aussi. Hein, de petit à petit aller gratter là où les agences ont pris ont utilisé
les intermédiaires
flou, voilà et font les intermédiaires typiquement là Brand Collapse Manager ou Brand Connect. Ça va exactement dans ce sens là donc ok affaire à suivre. Allez, moi je voulais parler de Facebook qui est toujours dans la tourmente hein, face au sujet Black Lives Matter et puis plus généralement à l'aune des prochaines élections américaines avec le je sais pas comment dire avec Trump quoi tout simplement qui fout une merde globale généralisée aux États-Unis
il a fait un dernier très beau meeting
voilà et donc The North Face s'est mis à boycotter Facebook Ads. C'est quand même une grosse annonce hein, qui est tombée vendredi dernier. The North Face, la fameuse marque The North Face, a tweeté qu'il cesserait d'acheter des publicités Facebook en solidarité avec les organisations de défense des droits civiques. La marque, elle a publié une annonce pleine page aussi dans le Los Angeles Times hein, en demandant à Facebook de supprimer la rhétorique et les messages haineux qui pourraient inciter à la violence. Alors, on sait qui est visé, hein, évidemment, derrière tout ça. Et ils ont tweeté sur The North Face. Nous sommes sortis vendredi en signalant, du coup, leur soutien au boycott des publicités Facebook. En fait, c'est un boycott exclusivement pour le mois de juillet. Alors, The North Face a dit que ça comptait de maintenant jusqu'à fin juillet. Et c'est un boycott qui est initié par le mouvement Stop Hate for Profit, c'est un hashtag Stop Hate for Profit, et qui souhaite créer un effet boule de neige hein, en partant de s'adresser aux marques en leur disant c'est votre responsabilité et ne nourrissez pas l'hydre à deux têtes Facebook.
Qui est voilà. Plutôt malin. Hein.
Alors Facebook, eux, ils ont répondu en disant « Nous respectons profondément la décision de toute marque et restons concentrés sur l'important travail de suppression des discours de haine. » Voilà, donc The North Face, là-dessus, a dit qu'ils allaient étendre hein, leur protestation publicitaire à Instagram, dont Facebook est propriétaire. Voilà, c'est très intéressant. Alors forcément, l'effet boule de neige est en train de se produire hein, parce que dans un tweet, Patagonia s'y est mis aussi. Hein, oui, forcément, The North Face, Patagonia... Et du coup, ce week-end, c'était au tour de la marque Patagonia d'annoncer un retrait momentané de la plateforme publicitaire. Et ils disent dans un tweet, pendant trop longtemps, Facebook n'a pas pris de mesures suffisantes pour arrêter la propagation de mensonges haineux et de propagande dangereuse sur sa plateforme. Du coup, nous retirons nos publicités. Intéressant, effectivement, de voir ce qui va se passer. Parce que c'est vrai que si un certain nombre de gros annonceurs commencent à se retirer en disant « Moi, l'environnement, il n'est pas suffisamment brand safe pour ma marque. » Hein, parce qu'évidemment, là, on parle de marques qui ont... un brand purpose très forte et qui sont engagés, mais même pour d'autres marques, ouais, ça peut devenir compliqué de se retrouver dans un environnement où tu vas te retrouver au milieu des fake news, etc., et de cautionner potentiellement une plateforme qui n'a pas pris des partis pris très clairs sur le sujet.
Ouais, moi, là, maintenant que le mouvement est un peu lancé, je me demande si, tu vois, des marques comme Nike, par exemple, qui est quand même une marque qui a toujours pris des fortes positions vis-à-vis du mouvement Black Lives Matter, qui a fait une campagne de publicité avec Colin Kaepernick à genoux sur leurs affiches à une époque où personne voulait être Colin Kaepernick dans la NFL. Je me demande si une marque comme Nike peut dire bah aussi du jour au lendemain, parce que j'imagine que Nike, le budget pub Nike Monde, ça doit être un tout petit peu costaud sur Facebook. Donc si une marque comme ça commence à dire nous on suit le mouvement et pendant un mois au moins on arrête nos campagnes, ça peut quand même faire un petit peu tout drôle à Facebook.
Ce qui sera intéressant de voir surtout, c'est si The North Face et Patagonia prennent cette décision là à l'échelle monde ou juste aux États-Unis.
Déjà,
parce que si c'est à l'échelle monde, c'est une vraie sanction, ouais, à l'égard de Facebook, et ça oblige peut-être le groupe à prendre des décisions. Si c'est exclusivement aux États-Unis, c'est de la communication.
Ouais.
Pareil pour Nike, hein, si
ouais,
c'est exclusivement sur le sol américain, évidemment c'est préjudiciable pour Facebook, mais ça reste assez léger. Ouais. En tout cas, ils ont une emprise supplémentaire sur le groupe. Voilà, je trouve assez intéressant à faire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que encore une fois, Mark Zuckerberg va sans doute un jour ou l'autre prendre des décisions de ce côté.
Et bien, si vous avez envie d'ajouter des choses, hein, si on a fait quelques imprécisions ou quoi que ce soit, ou si vous avez d'autres news à venir partager avec nous, n'hésitez pas à être super natif sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, LinkedIn, Facebook, sur TikTok même ou Pinterest. Venez en parler avec nous, on répond à tout le monde, on discute avec tout le monde. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, alors laissez-nous une note, un commentaire, on les lit, ça nous fait super plaisir. On a pas mal ces derniers temps en plus qui nous font chaud au cœur et qui nous donnent encore plein d'énergie pour continuer. Et puis,
merci à vous tous.
Ouais, voilà,
et puis
tout
on vous
simplement.
Donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode du Super Daily. Salut tout le monde, ciao.